Hein, un Yom Tov, il est sacré par lui-même, le travaux. On n'a pas le droit de prêter l'autre jour. Voilà. Or, comme il l'endroit c'est un Shabbat, donc on ne peut pas obliger les gens à préparer depuis le mercredi ou le jeudi pour le Shabbat. Ah, pas spécialement. Donc les chachamis ont permis de cuisiner le vendredi, c'est pendant le Yom Tov, pour le Shabbat. Hein? Pour ne pas, d'abord parce que historiquement, quand on mange quelque chose de frais, c'est meilleur que quand on mange quelque chose qui est vieux. Hein? Et donc comme les... Ah, c'est énorme le 80. C'est pour ça que les gens mangeaient beaucoup à l'huile parce qu'ils avaient peur de quelque chose à vivre. Pour que ça ne tourne pas. Alors, ils baignaient toutes les cuisines dans l'huile. Aujourd'hui, vous avez le frigidaire, donc vous en rendez presque pas compte. Mais à l'époque, les gens étaient obligés de cuisiner, de baigner les choses dans l'huile et de les mettre à l'ombre pour pas que ça tourne. Et c'est connu qu'un pain qui a plus de 24 heures ou une viande qui a plus de 24 heures, tout ce qui n'est pas de la journée, n'a pas un bon goût. Pas le même goût. Donc, les haravim, par kavod pour le Shabbat et, ou par kavod pour le Yom Tov, ils nous ont demandé de faire ce qu'on appelle un eruv tafshilin, c'est-à-dire une fusion au niveau des repas. C'est-à-dire je rejoins les deux jours. Donc je cuisine le jour de la fête, pas seulement pour la fête, mais même pour le Shabbat, qui vient après. D'accord? Et des fois, il arrive que par exemple, Rosh Hashanah, qui est trois jours. Hein, deux jours de Rosh Hashanah plus le Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les Chachamim ont instauré de préparer un plat au four pour ce qui va au four. Un plat au four pour ce qui va au four. Donc, un pain ou un gâteau. Quelque chose que vous cuisez au four pour permettre les choses au four. Quelque chose pour permettre les choses à l'eau, de cuisiner quelque chose à l'eau. Hein? Donc, quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Vous cuisinez soit au four, soit à l'eau. Non, mais vous mangez des choses qui sont soit cuites au four, soit cuites dans l'eau. Donc, pendant Yom Tov, soit vous aviez l'opportunité de faire des chalot, donc d'utiliser le four, soit de faire des cuissons à la marmite, à l'eau. À l'eau ou à l'huile. Donc ils ont exigé que vous fassiez donc un plat cuisiné au four, un plat cuisiné à l'eau, pour vous permettre les deux modes de cuisson. Non. Alors, pour que pendant Yom Tov vous ayez le droit de faire ces choses-là, avant Yom Tov vous devez préparer deux plats comme ça. Un qui est réservé au four, un qui est réservé à l'eau. Donc, c'est pour ça que vous choisirez donc soit un pain, une matzah, un gâteau, rien, et ou alors un œuf bouilli, un poisson, une viande, deux choses qui vont une au four et à l'eau. Et comme ça, vous bénéficiez de la permission d'utiliser le feu dans toutes les façons, également d'allumer des flammes. Pas seulement pas le feu pour cuire seulement, mais aussi allumer des flammes. Il y a par exemple des gens qui vont allumer des bougies pour des tzadikim ou pour leurs parents. Il y a beaucoup de gens qui allument une bougie pour leurs parents qui sont décédés. D'accord? Pendant le Yom Tov. Ou alors du feu pour boire clair, ou du feu pour fumer pour les fumeurs. Donc il y a des tas d'occasions d'utiliser du feu. Et c'est pour ça qu'on fait les
pour les teindre.
Pardon? Pourquoi pas? Aujourd'hui, parce que vous avez la guide, aujourd'hui, c'est plus un problème parce qu'il faudrait mettre une minuterie à l'avance, etc. Je veux dire, à l'époque, tout le monde utilisait le four Yom Tov. Tout le monde, même le Shabbat, ils utilisaient le four, les enfants. Il y avait le four du village, ils faisaient rentrer leur marmite dans le four du village, le four du boulanger, ou le four de public. Et ils allaient chercher après la tuilade sur Farid. Et ils mettaient un fil sur la marmite, pour la confondre avec la marmite du voisin. Donc, il n'y a pas de problème de cuisiner au four. On ne le fait pas techniquement, parce qu'on a des congélos et qu'on a déjà des chalotes toutes faites. Mais a priori, les gens d'Afka préféraient du pain frais. Le pain frais de la journée, c'est 100 fois meilleur que du pain à la veille. Pourquoi pas? Si vous mettez une minuterie qui s'allume quand vous avez besoin et qui s'éteint quand vous avez besoin. Bon, je vous dis techniquement, aujourd'hui, les gens, ils font plus tout ça parce que c'est la vie est la plus facile. Alors voilà, par exemple, comme vous voulez allumer les bougies de Shabbat, vous allez allumer ces bougies de Shabbat, ça va être Yom Tov. Donc vous avez donc besoin d'avoir une permission de flamme. Parce que vous allez utiliser le feu, exactement, les bougies de Shabbat. À la nuit. Alors il y en a qui disent comme ça, effectivement. Il y a une chita comme ça. Je voulais pas vous en parler parce que c'est pas vraiment important. Il y a une opinion qui dit que, de la même façon qu'on a compté 7 semaines de l'Omer, et il y a écrit qu'il faut que ce soit Sheva Shavuot Temimot, 7 semaines pleines. Si c'est plein, c'est qu'il ne manque pas une minute. Donc, on exige de prier la tfila de Shavuot, de faire le kiddush de Shavuot, quand c'est déjà la nuit. Enfin, Shabbat, vous avez le droit de faire entrer le Shabbat plus tôt, par exemple. De manger plus tôt, de prier plus tôt. Faire kiddush plus tôt. Mais Yom Tov, le Yom Tov aussi, vous auriez le droit de faire ça. D'accord? Mais, Shavuot, vous avez un problème. Parce que si vous dites que c'est Shavuot, alors ça veut dire que vous avez saboté un morceau de la journée. Vous avez enlevé un morceau du 49e jour de l'Omer pour le consacrer à un morceau de Yom Tov. Donc c'est un problème. Donc toutes les communautés du monde, même en France ou en Angleterre où ça rentre à 11h du soir, la nuit tombe à 11h du soir, elles prient et elles font qu'ils doutent à partir de 11h du soir. Ce n'est pas très drôle. Maintenant, il y en a qui disent que, effectivement, même les bougies des femmes rentreraient dans cette définition-là. Mais ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Il y en a qui disent que ce n'est valable que pour les femmes qui diraient Shekheyanou, par exemple, sur les bougies. Alors, il y a beaucoup de femmes qui ne disent pas Shekheyanou sur les bougies, qui attendent le kiddush pour dire Shekheyanou. Et également, parce que la femme n'ayant pas de rapport avec le compte de l'Omer, elle n'est pas tenue de le compter l'Omer, donc on ne va pas l'obliger à allumer ces bougies dans la nuit. Celle qui veut, elle peut le faire. À condition évidemment d'avoir allumé une flamme avant que le Yom Tov le rentre. Celle qui veut ne pas le faire, elle peut allumer en plein jour comme Shabbat Yom Tov, Ragil. Si elle veut faire Shereinu, elle fait Shereinu, parce qu'à ce moment-là, il ne faudra pas le refaire dans le Kiddush. Si elle ne le fait pas avant de bougie, elle le fera avant du Kiddush, ou elle se rendra quitte d'un homme, enfin de celui qui fait Kiddush. Donc le Eruv, c'est important le Eruv, parce que le Eruv est affiché, parce que ça permet d'abord de cuisiner. Et ça, en même temps, ça, comme son nom l'indique, Eruv veut dire mélanger, solidariser. On solidarise tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais le Eruv, dans le texte du Eruv, je dis une bracha, et je dis dans mon texte que cela nous permettra à tout le monde, pas seulement à moi, à tous les gens de la ville ou du quartier, ça permettra à tout le monde de cuisiner. Donc, quand je fais un Eruv, je ne rends pas seulement la permission à ma famille de cuisiner, mais je le donne la permission à tous les individus de la ville. Je solidarise tout le monde. En général, c'est le rav de la ville qui fait ça, ou le rav du quartier qui fait ça. Mais même si le Rav Lavi ne l'a pas fait, ou le... n'importe qui rentre, tous ses voisins quittent. Et donc tout le monde doit faire cette opération du héros et le dire dans une langue qu'on comprend. Si on ne comprend pas ce qu'on dit, on n'est pas quitte. Donc le héros, en général, il est, à part la bracha qui est en hébreu, bien sûr, le texte qui dit, grâce au héros, nous permettons de cuisiner, de faire du four, etc. Le texte, en général, il est dit en araméen. Parce que quand ils ont vulgarisé le héros, c'était la langue la plus commune, l'araméen. Mais aujourd'hui, où la plupart des gens comprennent mieux l'hébreu que l'araméen, donc on est très scrupuleux de comprendre ce qu'on dit. Si on ne comprend pas ce qu'on dit, on n'est pas quitte. Donc il vaut mieux ne pas le dire en araméen, si on ne comprend pas, et le dire dans la langue qu'on comprend, soit en français, soit en hébreu, langue que vous comprenez. Non. Ah, si on traduit mot à mot, on comprend ce qu'on dit. Il faut savoir de quoi qu'est-ce qu'on est en train de permettre. Alors, ça peut être soit le mari, soit la femme qui fait le héros, soit le grand-fils. C'est pas obligé que ce soit, c'est une mitzvah de tout le monde. Alors, quand par exemple, il y a des femmes qui sont ignorantes, des femmes qui ne connaissent pas, les vieilles, je sais pas. Alors, quand vous faites le héros, vous pensez aux vieilles du quartier, ou du pays. Vous dites, je permets à toutes les femmes, qui ne savent pas ce que c'est que le héros, de cuisiner grâce à ce que je fais maintenant. Parce qu'il y a des femmes qui sont toutes seules, elles se font plat, elles se font bouillir de l'eau pour boire du thé, etc. Donc c'est très important. Maintenant, pour marquer que c'est que le héros est une opération de solidarité entre tout le monde, on donne le mérite du héros à un voisin. De préférence, on prend un voisin. À Jérusalem, c'est pas difficile. Bon, Rachel, on n'est pas dans un trou perdu des États-Unis. Vous tapez à la porte de votre voisin et vous prenez le pain que vous avez consacré, le plat que vous avez consacré, et vous lui donnez dans la main et vous lui dites, voilà, je te donne le sroud du héros et il vous le rend. Comme ça, l'héros est à lui et à vous. Et après, vous rentrez chez vous et vous faites l'opération du héros. Maintenant, ce héros, il faut le manger. Il n'est pas de le cuisiner, il faut le manger. Alors, on le mange soit au premier repas du Shabbat, soit au deuxième ou au troisième. A priori, c'est le premier repas du Shabbat. C'est le plus facile, puisque vous avez fait ça pour cuisiner Shabbat. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le manger le vendredi soir, vous pouvez le manger jusqu'au samedi, avant la nuit. Dans la Seouda Shlishit, par exemple. En général, avant, ils étaient noahim, les gens avaient le minhag de faire de l'œuf. Parce que l'œuf, ça se conserve 24 heures. Mais aujourd'hui, quand on a un frigidaire, même si vous faites du thon ou du poulet, vous le mettez au frigidaire, donc ça va. Pardon ? Quelque chose qui est cuit à l'eau ou à l'huile. Le pain et, on a dit les deux, il faut. Pardon ? Au four, le pain et à l'eau, l'autre plat. On a dit deux plats. Vous avez compris ? Puisque vous devez permettre les deux façons de cuire. Alors, il faut le faire. Pardon ? Apparemment, on a le droit d'acheter un pain, mais c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Il faudrait que quelqu'un le fasse dans cette intention-là. Vous avez compris? Voilà, c'est ça. Vous demandez une frala ou un gâteau. C'est au four, donc c'est pas obligé de ça.
On a un boulanger à côté, une boulanger
qui fait le pain, ça veut dire spécialement. Pour le Shabbat, alors vous lui demandez. Vous lui dites, faites-le moi pour moi. Et il vous cuit pour vous. C'est pas un problème, c'est...
Un gâteau.
Un gâteau. Ouais, non. Un petit gâteau, vous cuisinez. Maintenant, compte quelle quantité il faut, il suffit de... A priori, il suffit d'un kazaït. C'est pas beaucoup. Un petit gâteau. Enfin, il suffit d'une petite quantité. Même si on est beaucoup à manger dans la maison. C'est une grande famille, par exemple. Avec des invités. Maintenant, la mitzvah la meilleure, c'est de faire que ce soit au moins kabetza, c'est-à-dire deux fois kazaït, 60 grammes. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de... Vous n'êtes pas obligé, par exemple, si vous faites du pain ou un plat, vous n'êtes pas obligé de faire un plat pour le héros. Dans le plat que vous faites, vous pouvez prendre un morceau pour ce héros. Voilà, vous avez cuisiné du thon. Du saumon, je sais ce que vous mangez le... Vous cuisinez. Vous n'êtes pas obligé de faire en plus un autre plat pour les ouvres. Vous compliquez la vie. Vous sélectionnez un morceau de ce plat, une tranche de thon, par exemple, et vous dites, voilà, cette tranche-là, c'est pour les ouvres. Vous avez compris? Pas de question. Maintenant, le ouvre, il vaut mieux le faire le matin, le plus tôt possible, c'est-à-dire. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire le matin, vous pouvez le faire jusqu'à ce que le soleil se couche. D'accord? Et c'est maintenant, si vous l'avez oublié, comme on a dit, si vous l'avez oublié, ça n'est pas grave, vous êtes quitte par les autres personnes dans la ville qui ont pensé à vous. C'est pour ça que les gens n'insiste pas beaucoup sur cette mitzvah parce que c'est en vérité une mitzvah récupérable par le voisin. Il y a écrit dans la halakha que si quelqu'un il a fait exprès par le faire le héros en disant de toute façon le voisin et le rav il pense à moi donc je m'en fiche, on dit que s'il fait pas, il fait exprès de pas faire le héros, il s'appelle un voyou. Et que si trois fois de suite dans sa vie, il a fait exprès de ne pas le faire, on n'a pas le droit, on ne mange plus chez lui. On le boycotte, ça veut dire. S'il dit, oh, je m'en fiche du roux, moi. C'est-à-dire, s'il le fait exprès, en sachant qu'il faut le faire et qu'il ne le fait pas. On ne parle pas du cas de la plupart des gens qui ne font pas le héros, que je connais, c'est parce qu'ils préparent tout avant. Beaucoup de femmes qui disent, ça sert à rien qu'on fasse le héros, parce que moi je cuisine tout jeudi déjà. J'ai pas besoin de cuisiner vendredi. Donc j'ai pas besoin de me casser la tête. Pardon ? Il faut quand même le faire pour une raison très simple. D'abord parce que voilà, vous utilisez le feu. Vous aurez certainement besoin de l'eau en plein milieu. Vous n'avez pas forcément préparé l'eau pour votre café du Shabbat en quantité suffisante, donc vous aurez besoin de bouillir cette eau, de la cuire. Et plus simplement. En général, quand vous mangez chaud. Donc le plat que vous avez cuisiné, même s'il est cuisiné depuis ce soir, vous allez quand même le réchauffer avant de le servir. Donc vous allez chauffer. D'accord ? Et vous n'allez pas être pointilleuse comme le Shabbat, que ça ne boue pas. Puisque vous avez le droit de cuisiner Yom Tov. Donc vous allez le mettre sur votre plaque ou sur votre gaz, et vous en fichez que ça boue ou que ça cuise un peu plus. Donc effectivement, vous avez utilisé la permission du feu pendant Yom Tov. Donc c'est pas, ça n'a aucun intérêt de dire je ne le fais pas. Terzio, vous rendez quitte tous vos co-religionnaires. Voilà. Kvod Arav. Oui, Kvod Atalmid. Maintenant, vous parlez d'autre chose, voilà. Maintenant, vous avez une autre question, c'est plus sur les héros.
Non, c'est exemple, je mets la plata, je mets l'eau, le Shabbat, déjà.
La plata électrique, vous voulez dire ?
La plata électrique, mais je ne suis pas acheté du tout.
C'est possible que lui-même,
il
est fin,
trop galère, il est trop bien, de tout, machin, ça me met. Trop galère, à chaque fois, oui, c'est gaffe qu'après.
But what's your question, but please?
Non, alors, je fais.
I don't understand.
Je fais quand même.
Ben oui, je vous ai dit que si vous allez. Mais c'est du feu le la plaque. Quand vous mettez sur la plaque un plat glacé. Voilà. Un plat glacé. Si c'était Shabbat, vous ferez attention qu'il ne chauffe pas trop parce que vous ne voulez pas que ça boue, etc. Mais Yom Tov, vous avez le droit. Donc vous n'allez pas faire attention parce que la chaleur du. C'est le. Comment on dit chez nous ici? C'est la. L'auberge espagnole.
Ils
ont des places par là pour aller dans le feu. Je sais pas ce qu'ils. Non, ils cherchent peut-être les toilettes, un verre d'eau, un coca.
Ils
ont le monde entier ici qui défile.
Ah, j'ai vu ça.
Et des fois, il y a des gens qui me rendent et ils disent bonjour. Comme si. Et puis, je ne connais ni Adam ni Dev.
En fait, ils ont défilé dans la
ville. Ils disent bonjour parce qu'ils ont l'habitude de venir ici quand je ne suis pas là. Quoi. Bonjour, c'est moi qui suis l'invité. Quoi. On regarde de porte. Bon, tant qu'ils ne prennent pas des boîtes de Zdaka ou des. Ou le manger des. Donc, comme vous allez utiliser le feu à une occasion ou une autre de la fête, vous allez allumer des bougies, vous allez allumer, ce que je sais, une flamme en plein milieu, vous allez peut-être avoir besoin d'un peu plus d'eau, vous allez rajouter de l'eau dans le koum-koum pour. Ce que je sais, vous avez un bébé qui pleure, vous avez utilisé de l'eau pour faire un biberon. Malo. Alors pourquoi ça peut se priver de faire une mitzvah, surtout qu'on est rare, c'est pas tous les jours qu'on a la mitzvah de héros. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Maintenant, on va parler de Shavuot. Dans la matinée, avant midi. Demain matin, de préférence avant Hatzot, avant une heure. Si vous ne l'avez pas fait, ben, vous pouvez le prendre midi. L'essentiel, c'est de ne pas oublier, et que comme plein de gens que je connais, la sonnerie sonne, ils sont en train de courir pour allumer les bougies, les douches des enfants. Ah, le héros! Ah, il tape chez le voisin qui ne veut plus ouvrir. C'est... Donc il vaut mieux s'y prendre à l'avance. La sagesse veut qu'on fasse les choses le plus tôt possible. Ne remets pas à demain ce qu'on peut faire d'une main. Voilà. Donc, on va faire le Shavuot. Bon, moi, je vous fais rire. Si je vous apprends rien, moi, je vous fais rire.
C'est pas le rôle de la femme dans Shavuot, parce que, franchement...
Le rôle dans la femme dans Shavuot. Non, c'est
pas... Les femmes, elles ont pas prise d'étudier la Torah, qu'elles ont quelque chose dedans.
Alors, on va parler de Shavuot, et si ça vous convient pas, vous posez une question. Ça fait 30 ans que je fais ce cours, donc tous les semaines je suis obligé de trouver une nouvelle idée. D'accord ? Donc il faut que. Donc si vous me brouillez maintenant mon programme, je suis mal. En plus, je suis enregistré. Alors je suis mal, là. C'est conférence du rabbin du consistoire. Le rôle de la femme, je
pensais que je voulais dire en fait, plutôt.
Vous allez voir Shavuot sous l'angle. Sous la lorgnette, non, la lorgnette que je vous propose, et si ça répond à votre question, inématov. Alors, je vais vous faire un petit historique et vous allez tout comprendre sur Shavuot. Enfin, sur le Matan Torah, sur le don de la Torah. Avant que Adam Arishon ne faute, vous savez, un monsieur, il s'appelait Adam Arishon. Hein? C'était notre ancêtre. Et ce monsieur, avant qu'il ne faute, vous voyez, c'est historique. Avant qu'il ne faute, les choses étaient très claires dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire les choses étaient très claires dans le monde? Ça veut dire qu'il y avait chaque élément du monde. Il était défini comme entier, avec tous les défauts qu'il a, il s'appelait le mal. Il n'était pas beau, il n'avait que des défauts, ça s'appelait le mal. Vous aviez la même chose, un objet, il n'avait que des avantages, conséquences secondaires négatives, et il était beau, et il était bon, et il était facile d'accès, et ça s'appelait le bien.
Et tous les milliards de détails du monde étaient comme ça. C'est-à-dire que là où Adam Richon faisait l'œil, il savait tout de suite qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ce qui était beau, pratique, ayant que des avantages, donnant l'éternité, la santé, la sérénité, l'équilibre, la morale, ça s'appelait le bien. En face, vous avez ce que, le vilain, sentant mauvais, pourri, négatif, ta-ta-ta, ça s'appelait le mal. Pitom, ce monsieur, notre ancêtre, il lui vient le djouf de faire ce qu'il a fait, et à ce moment-là, vous dit, tout ça, ce que je vous dis, c'est écrit dans le guide des égarés, c'est pas une élucubration que je vous invente. C'est écrit dans le guide des égarés, après la faute, juste après la faute d'Adam Richon, tout a été brouillé. Tout a été brouillé, cela signifie que quoi? Que vous n'avez pas du bien sans mal, et vous n'avez pas du mal sans bien. Vous n'avez pas du beau qui est forcément bon, et vous n'avez pas du laid qui soit forcément mauvais, etc. Tout a été brouillé, et la brouille est encore plus forte, c'est que le prorata du bien et du mal dans chaque chose n'est pas défini, n'est plus défini. Vous ne savez pas si c'est 10%, 1%, 0,1% ou 99%. C'est en rapport direct avec ce que je viens de dire.
Vous avez dit que Adam Richon, il voyait le bien et le mal.
Pas il voyait, c'était comme ça. Pas qu'il voyait, c'était objectif.
L'argument du Sarah, c'est que tu vas être comme Dieu, tu verras que c'est que le bien et le mal. C'est ça l'argument du Sarah pour le faire sauter. Alors, c'est quoi la nuance que vous voulez savoir par rapport à ça? Qui voyait déjà le bien et le mal séparés. Qu'est-ce qu'il voulait savoir de plus, Adam Richon?
Non.
C'est-à-dire quoi, Dieu, il voyait quoi de plus?
Il n'avait pas une connaissance de tous les éléments du monde.
Non, mais ça veut dire qu'il cherchait à savoir. C'est pas l'argument du serpent, justement, de dire par rapport au bien. Tu vas connaître le bien et le mal comme Dieu, il connaît.
Vous voulez dire qu'est-ce qu'il a gagné?
Il le voyait déjà,
mais parce que c'était qu'il y avait une étiquette. Il y avait une étiquette qui disait bien et mal. Mais il n'avait pas une perception, voilà.
Non, mais lui, il n'avait que la perception du bien, en fait.
Voilà. Ce que je vous dis, le mal pour lui, ça sentait mauvais, et là, le bien, ça sentait bon. Donc, pshita, il n'allait pas aller vers le mal. Pitom, il a fait la faute, et à ce moment-là, Thomas, il a fait la faute, et à ce moment-là, tout est brouillé. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est là qu'est le point d'intérêt de Shavuot. Il a donc créé maintenant, Adam Richon, il a créé ce qu'on appelle en philosophie le dilemme. Il a créé le dilemme. C'est quoi le dilemme? Ça veut dire que j'ai envie de boire un verre de Coca-Cola. Mais maintenant, ce verre de Coca-Cola, il a trop de calories. Et d'un autre côté, c'est bon. D'un côté, ça fait grossir. D'un autre côté, ça donne du tonus cérébral. D'un côté, ça abîme le foie, ça attaque le foie. D'un autre côté, ça redonne de l'énergie. Vous avez donc un dilemme, parce que quelle est la quantité de bonnes choses qu'il y a dans cet élément qui va faire que je vais l'utiliser, et quelle est la quantité de choses négatives qui fait que je vais dire non. Parce que quelle est la difficulté dans la vie, c'est la atama, c'est-à-dire l'adaptation du just time ou just... Non, le bon temps dans le bon geste à la bonne personne. C'est ça la vie. C'est de trouver quel est le bon geste, le bon aliment, au bon moment pour la bonne personne. Si quelqu'un, par exemple, a eu un problème neurologique, il faut qu'il boive du coca, justement. Ça redonne un tonus cérébral extraordinaire. Donc, si cet homme-là a un problème très grave neurologique, une opération cérébrale, on lui dit buvez du coca. La bière, c'est de l'alcool, donc c'est pas bien, donc du coca, par exemple. Maintenant, quelqu'un est diabétique et qui a un problème neurologique, comment il fait alors? Doit-il boire du coca pour soigner son problème neurologique? Et ce de coca va lui faire du mal au niveau de son sucre. Donc ça veut dire que la atama, l'adaptation de la chose exacte, au moment exact, pour la personne exacte, c'est ça la recherche de l'homme depuis que le monde est monde. Et c'est ça que Adam Rishon a brouillé. À l'époque, vous n'aviez pas besoin d'adaptation, puisque tout était bon. Donc vous pouviez prendre du coca, vous n'auriez eu que des avantages et aucun inconvénient d'en prendre. Donc toute la vie, elle est brouillée à partir de maintenant. Et donc toute la recherche de la vie est justement de, que ce soit les scientifiques, les politiciens, les philosophes, les hommes de la rue, les mamans, les papas, tout le monde essaye de faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez un truc, il ne faut pas qu'il ait des tofaot leva, il ne faut pas qu'il ait des conséquences négatives. Quand vous prenez de l'aspro, ah, j'ai plus mal à la tête, oui, mais vous risquez d'attraper une cirrhose, parce que ça attaque le foie. C'est-à-dire que chaque chose dans ce monde-là, elle a obligatoirement un danger, et donc à un moment précis, il vous faut cet aspro, vous avez très mal à la tête. Donc, vous avez donc choisi l'option que l'aspro est important. Parce que j'ai mal à la tête, je ne cherche pas à savoir ce que ça va faire pour mon foie. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Et c'est ce qu'on appelle le dilemme. Vous avez un dilemme toute votre vie, dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, et le plus embêtant de tout, c'est dans l'humain. Dans l'humain. Pardon ? Dans le mariage, déjà. Le dilemme dans le mariage. Dans le mariage, quand vous allez, quand quelqu'un va se marier, d'accord ? C'est le plus grand dilemme qu'il y ait dans la vie. Plus encore que le dilemme d'une maison à choisir, ou d'une voiture à acheter, ou d'une machine à laver. Parce que, à longueur de faire analyser votre vie, qui est très courte, reconnaissez-le pour l'instant, vous ne retenez même pas le nombre de fois que vous avez fait des faux choix. Vous ne retenez même pas le nombre de fois que vous avez fait des faux choix. D'accord ? Vous avez acheté une lessive, ça marchait pas du tout, elle vous a fait plein de mousse, elle a pas lavé le linge comme il faut. Vous avez oublié, vous avez changé de lessive. Vous êtes gouré, il y a 10 ans, vous avez acheté une machine à laver de telle marque. Vous en rappelez même pas. Votre père avait acheté une maison au bord de la mer, il a fait un faux investissement, il y avait beaucoup d'humidité. Tous ces choix-là, dans le minéral, végétal, animal, on s'en fiche. Enfin, on les oublie. J'ai acheté de la viande, elle était trop grasse. Shabbat prochain, j'achèterai un autre morceau. D'accord ? J'ai acheté une mayonnaise, elle avait trop de sucre. Tout ça, à longueur de journée, on fait que des bourdes comme ça, d'accord ? À longueur de vie, on fait que des bourdes comme ça. Mais on dort la nuit de ça, ça ne nous gêne pas. Mais au niveau des rapports humains, c'est là qu'on est très embêté. Parce que dans les rapports humains, vous êtes associé avec quelqu'un, il vous a fait perdre de l'argent ou vous en faire gagner. Déjà, ça vous trouble plus que la mayonnaise. D'accord ? On vous a conseillé l'appartement de vos rêves. Vous avez mis toutes vos économies là-dedans. Il se trouve que l'ensoleillement, laisser à désirer. Ça aussi, vous montrez les doigts. Donc, un rapport humain. Vous êtes plus fâché contre le vendeur que contre l'appartement. Et dans le mariage, c'est le top. Vous voyez, vous parlez du rôle de la femme dans Shavuot. Dans le mariage, c'est le top du dilemme. Avant de se marier, ou en étant marié, on se dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne me suis pas trompé de route? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que la quantité d'avantages qu'il y avait dans cette chose-là était bien choisie? Il arrive quelquefois que vous n'ayez que 1% d'avantage à une chose, mais vous avez absolument besoin de cette chose. Enfin, il arrive quelquefois que quelque chose soit entièrement négatif. Il reste une petite chose qui est bien. Seulement, il vous faut cette chose-là. Oui. Et vous avez un moustique qui vous dérange, enfin, vous allez utiliser un appareil pour le tuer. Ça sent pas bon, ça vous laisse des traces sur les mains, ça coûte de l'électricité, ça fait de la couleur sur le mur, et vous avez peut-être une chance qui vous pique quand même, mais vous l'avez quand même acheté parce qu'il y a une chance sur 1000 que le moustique soit tué. Donc c'est tellement important pour vous, la mort du moustique, que vous avez oublié tous les inconvénients de la machine. Donc vient Adam Richon et il nous met dans ce problème-là, le dilemme. Sans arrêt, dois-je choisir tel stylo plutôt que ce stylo? Sans arrêt, à longueur de journée, vous êtes dans un dilemme. Seulement vous êtes prêt à assumer l'erreur, mais il y a des domaines où vous n'êtes pas prêt à assumer l'erreur. Parce que c'est des domaines où c'est cardinal. Si l'erreur est fatale, avez-vous choisi le bon mari? Avez-vous choisi le bon chemin, ou le bon médecin, si que Dieu préserve avec quelque chose de grave. Alors, viens, qu'est-ce qui se passe? Adam Arishon ayant fauté, le bon Dieu aurait pu dire, puisque Adam Arishon a fauté, eh bien, mes enfants, vous allez déguster ce que votre père a fait. Maintenant, cassez-vous la tête, jusqu'à la fin du temps, jusqu'à ce que j'arrête le jeu avec le Mashiach. Cassez-vous la tête dans vos dilemmes. Cassez-vous la tête contre les murs. Et vient le Matan Torah. Le Matan Torah, c'est le livre qui résout les dilemmes. Voilà pourquoi c'est un jour de fête. C'est que Dieu a eu pitié de ses enfants. Il aurait pu leur dire, quand les parents boivent, les enfants trinquent. Puisqu'Adam Arishon a fauté, que vous étiez partie intégrante d'Adam Arishon, eh ben vous allez supporter les conséquences de votre ancêtre. On s'en fiche de vos problèmes. Et Dieu est bon, et il dit, non, je vais quand même leur donner la clé qui résout les dilemmes, tous les dilemmes de la vie. Il a attendu qu'il y ait des gens qui se préoccupent de résoudre le dilemme. Abraham Avinu et ses descendants. Avant, les autres sont fichés du dilemme. Ils n'avaient pas de dilemme avant. C'était des idolâtres. Ils étaient capables d'adorer ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Le dilemme, c'est quand vous devez choisir ça ou ça. Mais quand vous êtes idolâtre, vous choisissez pas, vous faites tout. Un homme qui veut respecter le Shabbat, il doit se dire, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le magasin et je perds de l'argent, ou je fais plaisir à Dieu et à mon âme? Donc c'est un dilemme. Et celui qui est idolâtre, il dit, j'ouvre le magasin parce qu'il y a un Dieu des affaires, et quand j'ai envie, je fais Shabbat parce qu'il y a un Dieu de la synagogue. J'ai pas deux options, je peux prendre tout ce que je veux. Donc avant Abraham Avinu, il n'y a pas de dilemme. Si on a envie de tuer ses enfants, on les tue. Si on veut les laisser en vie, on les laisse en vie. Si on veut... On veut être moral, on est moral. Si on ne veut pas être moral, on n'est pas moral.
L'idolâtrie, ça peut être aussi, ça veut dire croire en soi-même, ça veut dire non, moi je pense que c'est bon, je ne ferai pas Shabbat, parce que je pense que c'est bon.
Ne pas accepter Matan Torah, ça veut dire faire ce qu'on a envie quand on a envie. C'est ne pas avoir de conscience. Ne pas avoir de dilemme.
Ouais. Si on a trop de...
Être bien élevé, c'est un dilemme. Par contre, être bien élevé. Est-ce que je vais déranger la personne à ce temps-là ou je ne vais pas la déranger? Avant Matan Torah, avant avoir ma binou, il n'y a pas ce problème. Je rentre chez toi à coups de hache et je casse tout. Et peu importe si, à quelle heure c'est. Pour avrier. Je casse tout. Qu'est-ce que je m'en fiche que ça te dérange que j'arrive à 11h du soir? Et si tu es plus fort que moi, tu me tueras. Si je suis plus fort que toi, je te tuerai. C'est tout. La vie, elle était comme ça. C'était une jungle où tout le monde était content de ça. Donc c'est Abraham Avinu qui nous a mis le dilemme qui nous a réveillé qu'il y a des choix à faire.
Excusez-moi, le descendant d'Adam Rishon, qui lui était quand même croyant et voyait Dieu, c'est-à-dire que le premier âme était Dieu, il n'y avait pas des gens qui ont suivi dans le côté monothéique?
Oui, mais ils étaient tout seuls à se battre contre ça et ils réglaient leur dilemme tout seuls.
Il n'y avait pas beaucoup.
Oui, il y avait un par génération. Que personne n'écoutait. Donc, vient la Torah, vient le Matan Torah, et Dieu vous dit, je vais vous donner maintenant un message dans lequel tous les dilemmes vont être réglés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous allez savoir sur les avantages d'une chose que c'est ça qu'il faut faire, malgré les inconvénients de la chose là. Ou l'inconvénient de la chose malgré les avantages qu'elle a. Toute la Torah ne fait que ça. De vous donner une clé à chaque carrefour où vous trouvez dans la vie. Vous, quand vous êtes dans un magasin en France, vous rentrez dans un magasin d'alimentation, un fixe poutre, hein. Votre seul dilemme, c'est de trouver les produits qui sont permis par la cache-route. Donc vous avez beaucoup réglé de problèmes. Vous n'allez pas rester une heure devant le rayon de charcuterie, hein, qui vous convient. Alors vous allez vous demander, est-ce que j'achète cette huile-là, si elle est permise, ou celle-là qui n'est pas permise. Donc ça va être très vite. Donc là, la Torah vous a réglé déjà la plupart des choses. Parce que avoir le choix, c'est pas toujours agréable. L'homme, justement, n'aime ne pas avoir le choix. Il n'y a rien de mieux que pas avoir le choix. Il n'y a rien de mieux que qu'on vous dise, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il vous faut. Ah, c'est formidable. Alors que si je vous dis, ça c'est bleu, et c'est cher, ça c'est vert, et vous n'aimez pas le vert, mais c'est bon marché. Alors voilà, vous avez resté une heure à savoir. Qu'est-ce que je fais? Oui ou non? Donc l'homme, l'individu, ne veut pas avoir le choix. L'individu voudrait avoir la visée juste tout de suite. Pourquoi il veut le choix? Parce qu'il a peur, justement, qu'on le trompe. Mais si on ne le trompait pas, si à chaque fois on lui disait, voilà, ça, c'est ce qu'il vous faut. Une chose. Vous serez... C'est ce que l'homme recherche. Une solution à chaque chose. Et ça, c'est le Matan Torah. Ça veut dire que toi, tu dois, le jour du Matan Torah, que tu sois un homme ou une femme, c'est ça votre question. Le Matan Torah, il n'y a pas écrit le Matan Torah aux hommes ou aux femmes. Le Matan Torah, il a été donné même aux oiseaux. Ça veut dire que, du fait que Dieu est apparu aux hommes, il s'est dévoilé à l'humanité entière, et même aux oiseaux, même comme le Midrash voit, comme aux pierres, aux fleuves, etc. Ça veut dire que nous recevons la Torah de façon consciente, c'est nous qui devons ouvrir le livre pour régler les dilemmes, mais en vérité, on va régler tous les dilemmes de l'humanité entière, et même des oiseaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire le jour de Matan Torah? Eh bien, il faut avoir une réception, une capacité intellectuelle, psychologique, de dire « je reçois la Torah ». Je suis Je veux que Dieu me donne les clés de tous les problèmes auxquels je vais être soumis cette année. Comme vous dites. Que je n'ai qu'une option, que mon cerveau sache tout de suite quelle est la, quelle est l'option qu'il faut choisir. Par la siata ishmaya, par l'aide de Dieu. Quand vous étudiez des textes, quand vous étudiez un texte de la Torah, vous n'avez pas l'impression qu'il règle forcément tous les problèmes que vous avez. Surtout quand vous étudiez la Gemara, par exemple, ou le Shulchan Aruch. Vous avez des tas de cas de figure qui n'existeront jamais. Seulement, vous avez attiré dans ce monde la capacité que quand vous allez fermer le livre, vous allez avoir le rouge, le don, pour régler un problème qui n'avait pas apparemment apparu dans le livre. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle avoir du da'at. Atachonen le adam da'at. Dieu donne en cadeau la conscience exacte des choses. Non, pas du limou de la Torah, de l'acceptation de la Torah. L'homme échané, de qui on parle, que ce soit un homme, une femme. Un homme, il n'étudie pas la Torah 24/24. Une femme non plus. Il y a d'autres choses à faire dans la vie. Il y a d'autres mitzvot à faire. Il y a des besoins matériels que je suis obligé de régler, même si je suis entre guillemets quelqu'un qui est dans la Torah. Il y a plusieurs heures de la journée où je n'étudie pas la Torah automatiquement, parce que je mange, parce que je suis obligé de me laver, je suis obligé de marcher. Donc c'est pas le simplement le fait de l'étude qui fait cette force là d'avoir du da'at. C'est le fait d'accepter la Torah de façon globale au moment du fait de Shavuot. De demander à Dieu qu'il nous donne la conscience, et que je pourrais à chaque fois régler tous les dilemmes. C'est le fondement de tout. Savoir que vous allez faire de moins en moins de faux gestes, de faux pas. C'est énorme. Imaginez-vous que quelqu'un qui accumule sans arrêt les fausses analyses sur les choses, les faux choix dans la vie, il est rejeté par tout le monde. Pourquoi on paye un avocat ou un conseiller publicitaire ou un conseiller financier? Pourquoi on paye ces gens-là des fortunes? Parce qu'ils sont censés régler vos dilemmes. D'accord? Ils sont censés vous dire, c'est pas ça qu'il faut faire, bien que vous ayez vu telle chose positive, c'est ça là qu'il faut faire, bien que vous ayez vu quelque chose de négatif. Donc il vous donne la Torah de la chose, quoi. Et vous payez des milliards pour ça. Les hommes politiques, ils payent des millions des gens qui vont dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils racontent au public pour se faire élire. Et donc vous, à longueur de journée, vous voulez ça. Vous voulez être sûr de mettre vos enfants dans une école qui va en faire des gens bien. Vous voulez être sûr d'acheter une robe qui ne va pas se déchirer au bout d'une semaine. Donc toute la journée, on est en train d'essayer de recevoir la Torah de la chose. Quelle est la meilleure la chose adaptée au temps, à l'espace, qui donne l'éternité à la chose? C'est sans arrêt ce qu'on cherche à faire. Et c'est ça qui apporte la tranquillité de l'esprit. Non? Et c'est ça le matin pour vous. Si vous n'arrivez pas à celui qui pense que recevoir la Torah, c'est recevoir un livre, recevoir un exercice intellectuel, ou alors une tradition, ou une vérité, tout ce qu'on peut dire sur la Torah, eh ben c'est incomplet son acceptation de la Torah. La Torah, ça peut être pour lui la réparation de ce qu'a fait Adam Arishon, c'est-à-dire de nous replacer, de viser juste à chaque fois, de dire, Toi, maintenant, il faut que tu prennes ça. Maintenant, oui, c'est ce qu'il te faut maintenant. Quelle heure? Il est 9h15. Il te faut cette boisson à cette heure-là. Et si tu l'avais pris une heure avant, c'est faux. C'est pas bon. Tu vas être malade ou tu vas pas dormir. Vous avez compris? Donc, tout le sujet de l'acceptation de la Torah, c'est que Dieu vous donne, par le fait que vous acceptez la Torah, il va vous donner une aide qui va vous faire choisir la bonne chose au bon moment. Bien que le monde entier va dire, mais non, mais c'est pas ça qu'il fallait choisir. Il y avait au moins 60% de défauts dans ce truc-là. Oui, mais c'est les 40% de qualité qui m'intéressaient. Et c'est ça qu'il fallait voir à ce moment-là. Quelqu'un qui est toujours en dilemme, c'est qu'il a un problème de tact, il a un problème de ne pas savoir, de ne pas avoir conscience d'arriver au bout de la chose, enfin, d'avoir une analyse tellement rapide de la chose, ou même sans analyse, de toucher tout de suite au point qu'il faut. Et c'est ça qu'il faut choisir. Non, il n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Le da'at, ça correspond à l'hypophyse. D'accord? Ça correspond au bas du crâne. Donc ça, c'est ce qui fait justement le rapport entre l'intellect et les émotions. D'accord? Le système émotionnel et le système intellectuel. Et c'est ça qui est le da'at.
C'est ça, quelqu'un qui fait pas de choix.
Avoir la conscience.
Oui, c'est pas les bons choix, c'est trop dans l'émotion.
Non, il peut être parfaitement intellectuel et faire raconter n'importe quoi. Vous avez des tas d'intellectuels qui sont plus faux dans leur choix que des émotionnels. Ça n'a rien à voir. C'est l'intelligence suprême. C'est celle-là, l'intelligence suprême. C'est de flairer avec qui il faut faire des affaires. C'est de flairer à qui est-ce qu'il faut fréquenter, qu'il ne faut pas fréquenter. C'est de flairer qui est tzadik, qui est racha. C'est de flairer quel est le produit qui vous convient, le produit qui vous fait du mal. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être intelligent ou pas. C'est l'intelligence elle-même. D'être intellectuel ou pas.
Quelqu'un, il a du cholestérol, du diabète, on lui dit que tu ne dois pas manger ça, et il le fait quand même, il est poussé par les médecins, c'est pas... Donc, mais si il fonctionne en se disant, ouais, ça me fait du mal, donc je ne le prends pas, il fonctionne avec le diabète, tout ça.
Non, ça, quel rapport avec le dilemme, là? Ce n'est pas un problème de dilemme. Il veut se faire du mal, c'est autre chose. Alors, là, on parle d'un... Moi, je me pose la question plus haut, à un niveau plus haut. Il ne sait pas si ça va lui faire du mal ou pas.
Comment il peut sentir la...
Si c'est clair que ça lui fait du mal, c'est un idiot qui le fasse. On parle pas de ça. Le dilemme, c'est quand vous ne savez pas quelle est la quantité de choses qui dans cette chose-là par rapport à l'autre. On dit que les femmes ont un da'at kala, elles ont un da'at qui n'est pas lourd, qui est léger. C'est-à-dire qu'elles peuvent être facilement manipulables. Mais elles ont une bina yetera, qui compense.
Bina yetera, c'est comme une intuition, c'est ça?
Une intuition. Ça compense le... Voilà, exactement. Donc tous les êtres humains, ils ont cette capacité de régler ces dilemmes. Si la femme, justement, elle était en défaut par rapport à l'homme, elle aurait au contraire une plus grande nécessité d'étudier la Torah, c'est pas ce que vous dites. On voit que non. Parce que la bina yetera fait que sa capacité de régler les problèmes est plus saine que ce que l'homme sans Torah va faire. Bien sûr. La emouna se donne la vision que tout est positif dans le monde. Et donc à ce moment-là, c'est sûr que quand on est optimiste, alors l'esprit, voilà, les portes s'ouvrent, et à ce moment-là, la conscience elle est plus claire.
celui qui lutte avec la émouna, qui lutte dans le carreau.
Quelqu'un qui n'a pas de émouna, il va vers le désespoir. Il se rétrécit, donc il va vers le désespoir. Donc il fait des choix, en général, noirs toujours. Il va choisir toujours le moins pire. Alors que celui qui a de la émouna, il n'a pas de problème de pire ou pas pire. Pour lui, tout est bien. Donc la seule chose qui est importante pour celui qui a la émouna, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour le monde ou qui n'est pas bien pour le monde. Alors que celui qui n'a pas d'émouna, il veut dire ce qui est le moins catastrophique ou le plus catastrophique.
Comment on développe le da'at? Comment on développe le da'at?
D'abord, on doit prier pour avoir du da'at. Parce que vous pouvez avoir les meilleurs conseillers, les meilleurs rabbanim, les meilleurs livres, les meilleurs tout ce que vous voulez, et pourtant faire des faux choix. Il faut déjà prier pour avoir d'avoir une.
C'est pas aussi se mettre, ça veut dire s'annuler, se mettre devant. Si on fait Kelly, quoi, ça veut dire qu'on s'annule devant Dieu, alors déjà on va recevoir qu'on nous recevra. Comme vous dites, ça a à voir avec on reçoit du gage, quoi. Ça veut dire celui qui est.
Pour avoir la conscience, il faut dire que tout ce que je peux penser, raisonner, etc., peut être faux. Il peut y avoir une nekouda qui manque. Une nekouda qui manque. Vous voyez bien que quand les Américains ils ont voulu sauver leur équipe en Iran, ils avaient préparé l'organisation pendant des années, des mois, et ils ont complètement échoué parce qu'ils ont oublié qu'il y a des tempêtes de sable qui rentrent dans les hélicoptères. C'est un détail tout à fait idiot. Et c'est ça qui a fait échouer toute l'opération. Ils n'avaient pas pensé qu'il peut y avoir à ce moment-là une tempête de sable, et donc à ce moment-là, l'hélicoptère... Ils ne peuvent plus voler, ils se sont fait exterminer. Et pourtant, c'est des gens qui sont payés, des milliards de dollars qui sont investis dans ça, dans le fait de penser à une opération. Donc il leur a manqué ce da'at, de dire, attendez, mais il y a un détail auquel on n'a pas pensé, et ça peut être le plus fondamental. Donc quand vous demandez à Dieu le da'at, ça veut dire, c'est pas que vous dormez toute la journée, vous dites, je m'en fiche d'apprendre, de savoir, de me renseigner. Non, je dors et je demande à Dieu qu'il me donne la conscience. Non, il faut étudier, se renseigner, être éveillé, être à l'affût, rendre du bien du mal, du faux du vrai. C'est vrai qu'il faut toujours faire ça. Mais en dernier recours, peut-être que tu as 99 données, il t'en manque une et c'est celle-là qui va tout casser. Et celle-là, c'est, je demande à Dieu de me donner du da'at. Et le da'at, ça veut dire que comme Sherlock Holmes, à la seconde où personne s'y attend, vous avez dit, s'il y a la bougie là, c'est qu'il ne faut pas acheter cette maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une bougie en plein jour, c'est qu'il fait son... Il faut qu'il y ait des pannes de courant. Tac! Bravo, mon cher Watson. Donc vous avez découvert une chose que personne n'aurait pu voir parce que vous avez eu un déclic que Dieu vous a donné à ce moment-là. Parce que vous avez demandé le date. Et ça c'est le matin de Torah. Le matin de Torah, c'est de dire à Dieu, fais en sorte qu'on soit des réceptacles pour s'adapter exactement, avoir la situation juste dans tous les choix qu'on va avoir. Pour marier vos enfants, pour les médecins que vous allez leur choisir, dans tous les cas de figure, vous avez toujours un besoin de faire un bon choix, d'ouvrir la bonne porte.
Et quand on dit alors Naasé Benishma, c'est-à-dire on dit Naasé Benishma.
Alors
on fera et après on comprendra.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils se sont en fait soumis à Dieu et c'est comme ça qu'ils ont reçu en fait le
Da'at. Ils n'ont pas reçu le Da'at, ils ont reçu la Torah.
Ils ont
pris la Torah, maintenant Dieu leur dit, maintenant vous avez la Torah, vous allez travailler jusqu'à ce que vous finissiez le tikkun du monde. Ils sont pas devenus des gens extraordinaires ce jour-là. Ils ont pris les devoirs, ils ont mené les devoirs à la maison. Et tous les ans on reçoit la Torah parce que tous les ans vous avez des nouveaux problèmes qui se soulèvent. D'accord ? Si tous les problèmes étaient déjà réglés et écrits quelque part, alors ce serait facile. Vous seriez milliardaire parce que vous auriez les combines financières pour, d'accord ? Ou investir. Vous seriez éternel parce que vous auriez pris tous les médicaments qu'il faut pour vivre 3000 ans, etc., etc. Donc c'est évident que chaque jour qui passe, il y a des nouveaux problèmes qui peuvent surgir. soit au niveau de la collectivité, soit au niveau de l'individu. C'est donc chaque année qu'on reçoit la Torah à nouveau, on reçoit des nouvelles facettes pour régler tous ces dilemmes. Vous avez compris? Et comme vous avez dit très justement, c'est par le principe de la providence divine que très souvent les choses vont être réglées, par exemple. La providence divine, c'est que c'est se brancher. Quoi. C'est que vous vous branchez à être la personne qu'il faut au moment où il faut. Comme je vous ai raconté l'histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, nous avions un divan que nous voulions liquider. Il était en excellent état, seulement comme il fallait lui faire une réparation, hein, donc nous avons dit, nous allons le donner à un pauvre. Alors, nous avons laissé le divan sur le palier, il faisait 300 kilos, alors que je n'étais pas tout à fait adapté pour le descendre tout seul. Et je l'ai laissé dans le palier, et plusieurs semaines, plusieurs mois même, je ne sais pas, et à Erev Pessah, ma femme m'a dit, ça suffit, il faut, ce soir, demain soir, c'est le céder, je veux que ce divan ne soit plus à la maison. Alors, je me suis dit, Erev Pessah, trouver 5 gaillards pour le jeter, en plus c'est dommage de le jeter, et tout, comment vais-je faire? À ce moment-là, rentre un garçon d'ici, il vient chez moi, il me dit, je ne vais pas parler lui pour vendre son hametz, je ne sais pas quoi, l'homme est chané, et ma femme lui dit, ah, si vous connaissez quelqu'un d'ici tout à l'heure, ça serait formidable. Alors il a dit, oui, de leur dire, bon, bah, il pose toujours, quoi. Ma femme. Et ne voyez-vous pas, mes chers enfants, que ce monsieur, en sortant de chez moi, il marche dans cette rue, là où il y a fond, et il croise quelqu'un que nous ne voyons qu'une fois tous les 10 ans, et qui lui dit, oh, comment ça va? Ça va. Il dit, dis-moi, tu sais pas où je peux trouver un divan? Ben ouais, tu sais pas où je peux trouver un divan? C'est-à-dire, le gars, le mec de Pessah, il lui demande à lui, tiens, en fait, est-ce que tu sais où je peux trouver un divan? N'est-ce pas ce qu'on appelle la providence divine? Alors, imaginez-vous le nombre de choses qu'il a fallu pour que lui vienne à cette heure-là chez moi, qu'il sorte à cette heure-là de chez moi, que avant de tourner à droite, il le rencontre, et que ce soit lui qui lui pose la question, etc. C'est-à-dire, c'est carrément vous auriez raconté ça dans un film, vous auriez dit, c'est vraiment nul. Enfin, c'est vraiment idiot ce film. C'est un rayon bidon. Et alors, donc, 3 minutes après, il revient avec 5 personnes, j'ouvre la porte, il dit, si vite, et je lui dis, je te crois pas, c'est possible, je te crois pas. Il m'a dit, mais voilà. Et l'autre, il était comme un fou. C'était un divan qui coûte une fortune en plus. Seulement, quand il fallait un peu le réparer et tout, voilà, on a renoncé. À lui, il était le plus heureux des hommes. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous branchez. Je vous dis, ça paraît invraisemblable. Si vous vous branchez, vous arrivez à être la personne qu'il faut, au moment qu'il faut, dans la situation qu'il faut. Alors qu'il faut, tac, 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 il y a une correspondance de faits, de absolument incroyable. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'aide de Dieu qui vous donne ça quand vous prenez sur vous le temps de la Torah. Et il suffit donc, comme tout mécanisme, il suffit d'un petit détail pour que tout ne marche pas. Vous avez bien vu quand vous essayez de réparer quelque chose. Vous avez tout fait et ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme disent les Français, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? D'accord? Et il suffit d'un tout petit détail et rien ne marche. Donc vous voyez bien que ce n'est pas presque tout et la moitié. Non, c'est des fois un petit détail qui fait qu'on est où on est branché et la chose fonctionne ou elle n'est pas branchée et ça ne fonctionne pas. Et donc pour avoir cette siyata d'Ishmaïa, il faut avoir cette acceptation de la Torah. Le jour de Shavuot. Et donc, vous voyez bien, quoi, c'est votre question, qu'il n'y a pas de différence entre l'acceptation entre les hommes et les femmes, mais voilà. Puisque, aussi bien les hommes que les femmes ont reçu la Torah. On n'a pas dit aux femmes, bon, écoutez, restez chez vous, il n'y a que les hommes qui sont au rendez-vous. Non seulement les femmes ont reçu la Torah, mais elles étaient devant. Ah oui, c'est devant. On dit que le bon Dieu leur a parlé plus gentiment parce qu'ils sont plus sensibles. Sensibles. Elles sont plus sensibles. D'accord? Je ne sais pas comment on dit. Et donc, alors comment vous dites? Les deux mots. Voilà. Et les hommes, ils étaient derrière et Dieu leur disait nous. Aux femmes, il en parlait gentiment, et aux hommes, gentiment. Il avait un ton agréable, et aux hommes, il en faisait vous allez voir ce que vous allez voir.
En même temps, il parlait.
Oui, parce que chacun a reçu la voix comme il était lui-même. Ah ouais? Puisqu'il y avait plusieurs. Voilà. C'est pour ça qu'il y a écrit quoi, Hachem, mais pas quoi. Dieu. La voix de Dieu était dans la force de qui? La force de chacun, pas la force de Dieu. Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il a reçu un degré de conscience et d'information plus importante que le dernier des derniers. Donc ça veut dire que c'est une fête qui est très difficile, je vois, parce qu'il n'y a rien à faire. Ouais, c'est pas comme à Sukkot ou après ça, il y a des choses à faire de notre part. Il n'y a rien à faire, il faut être en état de réceptivité. C'est pas facile d'être en état de réceptivité, de savoir. De préférence, essayer de réveiller, rester éveillé. Les hommes lisent le Tikkun, et les femmes, si elles veulent, elles c'est pas bien qu'elles fassent le Tikkun, c'est pas la peine qu'elles fassent le Tikkun, mais elles peuvent lire des livres, ou lire des théories, ou lire en route, qu'on fait le... Voilà. Donc vous avez compris que depuis cette histoire de la Marichonne, on est sans arrêt en train de lutter contre cette bagarre entre les dilemmes. Faire ça ou faire ça, dire ça ou dire ça, choisir ça ou dire ça. Et comme je vous ai dit, le problème le plus grave de la vie des gens, c'est le mariage. C'est le dilemme le plus grave de l'homme. C'est toujours comme ça. C'est évident qu'il y a la plupart du temps, tous les choix qu'on fait dans la vie, on les fait de façon inconsciente. Sinon, c'est maladif. Il y a des gens qui sont maladifs, qui ont un mal fou à prendre des décisions, pour n'importe quoi. Il y a des gens qui sont même psychiatriquement atteints. Vous les voyez, ils sont devant je vois, il y a des gens, des fois, ils se mettent devant la machine à café, vous voyez. Il reste une heure avant de savoir qu'est-ce qu'ils vont prendre. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, ou alors un stylo, je prends le bleu ou le noir. J'avance d'un pas, je recule d'un autre. Non, il y a des. C'est comme ça. Donc, ça va de cet état-là psychiatrique qui est embêtant, quoi, jusqu'à l'état le plus évolué où vous dites bon, je fais n'importe quoi, puis on verra bien. Puis après, vous mordez les doigts, après, vous dites.
Non. Ouais,
Très souvent, les autres, les êtres humains, en général, ils font n'importe quoi, en général. Ils ne se cassent pas la tête, ils vont à Dieu battre, et puis après, ils font marche arrière.
Ils sont pris à chaîne avant, et
puis, à la puissance. Il faut être très, 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 très vigilant.
Mais à un moment donné, il faut
décider. Voilà. Il y en a qui ne décident pas, il y en a qui veulent être assister. Il y en a qui veulent qu'on décide pour eux. C'est pour ça que le travail des éducateurs, c'est justement de ne pas assister les gens, c'est de les rendre indépendants de choix. D'être capable de régler leurs dilemmes eux-mêmes.
Ces gens-là, c'est des gens qui
ont
besoin d'accepter la Torah.
Exactement, bien sûr. Ah ben, que la personne elle dise, qu'elle ait conscience jeudi soir, demain soir, qu'effectivement c'est son problème essentiel de ne pas savoir choisir, c'est ce soir-là qu'on lui donne les clés pour le régler. Ah ouais, il faut s'acheter des béquilles.
Excusez-moi, le rôle du, par exemple,
quand on rajoute des enfants
à
l'âge 4, voilà, assez les harabes,
ouais,
fais-toi un
maître. Voilà, un maître, on lui pose des questions, on lui demande de nous aider dans des dilemmes. Par exemple, c'est comme ça, on l'appelle. que je fais. Mais on demande donc le datura, entre guillemets, quoi. On appelle quelqu'un.
Déjà, le principe de assé le haraf, fais-toi un haraf, c'est déjà un dilemme. En soi. Fais-le toi. Donc, c'est déjà, ça veut dire. Pardon.
C'est pour ça que les
rachidim. Et à quel rab vous avez demandé, quel rab choisir? Il faut lui-même, il faut demander. Il y a d'autres rabs pour savoir quel rab.
C'est pour ça que les rachidim, ils sont tranquilles, ils ont un rabbi et
ils ont. Non. En tout cas, avoir un rabbi, ça peut régler que des problèmes généraux. Des problèmes généraux. Mais ça ne règle pas le problème des choix qu'on a dans la vie. La preuve, c'est que dans le mariage, le rabbi ne disait pas aux gens mariez-vous avec celle-là. Il vous disait, si vous avez décidé tous les deux de vous marier, alors que si vous avez décidé, il fallait que les gens prennent leur décision. Ça veut dire qu'un rabbi n'est jamais venu pour enlever le libre arbitre des gens. Vous avez compris? Donc, dans tout ce qu'on fait, on a besoin justement d'être aidé. Et je vous dis, il y a des gens qui malheureusement, ils se retournent dans leur vie et ils disent, ils ont un constat d'échec. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'impression d'avoir fait un bon choix, ils l'ont réfléchi, c'est pas qu'ils ont fait un coup de tête. Ceux qui ont fait un coup de tête, on peut comprendre qu'ils se mordent les doigts parce qu'ils auraient dû réfléchir. Mais il y a des gens qui ont cru avoir décidé avec toute conscience, et ils se retournent et ils disent, mais ben, c'est vrai, je me suis trompé. Alors il y a des domaines sur lesquels, comme on dit au casino, on peut se refaire. Enfin, ils peuvent réadapter le coup. Et il y a des choses sur lesquelles on peut, il y a des points de non-retour.
Mais si je veux être personnellement, il voit un échec. Il a essayé de réfléchir. Il a essayé de réfléchir avant d'avancer. C'est que c'est pas un hasard.
C'est pas un
hasard. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard.
C'est ça, mais ça, c'est vous qui devez lui expliquer. Mais généralement, les gens sont pas forcément prêts à accepter que Dieu leur a pas laissé le choix, qu'il les a dirigés dans.
En général, les gens ils veulent décider eux-mêmes pour dire ils veulent pas, dire que Dieu leur a décidé.
Non, mais si quelqu'un a échoué et qu'il dit échoué, vous devez lui dire non, tu n'as pas échoué, c'est parce que Dieu s'est servi de toi dans un programme à lui, mais tu ne dois pas être triste de ça. La bataille. Dieu il voulait ça parce qu'il avait un autre projet que de vous faire un choix que vous auriez voulu faire vous. Heureusement d'ailleurs. Heureusement que très souvent, vous êtes manipulé par en haut. Parce que si vous comptiez sur votre tête ou vos amis pour bien décider, vous seriez mal. C'est pour ça que... Voilà, c'est ça. Vous voyez que après, au recul du temps, vous dites, ben, ça racole, ben, j'ai bien choisi. Je suis pas mécontent de mon choix. Non, c'est vous. C'est vous qui avez fait la chose, mais Dieu vous a aidé à le faire. C'est pas, vous n'êtes rien. Vous êtes associé avec Dieu.
Non, c'est ça, parce que des fois, on peut se dire, ouais, alors on n'a pas le choix du tout, mais manipulé par Hachem.
À un certain degré, c'est vrai qu'on est manipulé par Hachem, parce que le fait que vous ayez eu la conscience et que cette conscience vous a conduit à dire ça, c'est effectivement un plan très haut décidé par Hachem. Mais ça, c'est un domaine métaphysique sur lequel c'est difficile de rentrer.
On ne peut pas rentrer là-dedans, parce que souvent, on peut déprimer dans le sens qu'on n'est pas au niveau d'un tzaddik qui peut accepter complètement d'être complètement sans le libre.
La
croix. En tout cas, nous, on a besoin de se dire que finalement, on a quand même contribué à des... C'est vrai ou pas? On a besoin de se dire qu'on a contribué à des choses.
Ou vous pouvez faire, comme Edith Piaf, ce qui est aussi une chita, c'est de dire rien, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ça veut dire qu'il faut assumer. Ce qu'il faut assumer, ça veut dire... J'ai fait des mauvais choix, mais je les assume. Enfin, je commence à pleurer en disant Dieu il m'a pas aidé, ou mon père il m'a fait ci, ou ma grand-mère m'a dit ça. Bon, il faut assumer des fois les choix qu'on fait dans la vie. Et quand on soit manipulé ou pas manipulé, il faut avancer. C'est aussi une chita. Vous voyez que même Edith Piaf, on peut la faire rentrer dans le Tikkun HaOlam du matin de Torah. Ça veut dire, Non, c'est très optimiste. Ça veut dire que vous, que il faut pas être, il faut pas être nombriliste. Nombriliste, regardez toujours son nombril. Voilà, regardez ce que moi je fais. Nanana, j'ai raté, c'est terrible, j'ai raté. Ah ben, c'est pas grave, t'as raté, bon tant pis.
C'est bien d'ailleurs,
oui, je vous dis, il arrive dans la journée que vous fassiez 100 000 erreurs. Seulement, vous ne les retenez pas, les erreurs, parce qu'elles ne sont pas importantes pour vous. Que vous aviez été à ce magasin et 3 minutes après, vous avez dit que c'était 5 shekels de plus que là où vous avez été. Mais ça va, vous en remettez. Donc, à longueur de journée, vous faites ça, mais ça ne vous traumatise pas. Donc, il n'y a pas de raison que les autres choses vous traumatisent. Voilà.
Il y a des personnes pour lesquelles ça prend moins cher dans un supermarché ou dans l'autre, traumatisant pour eux. Pour des choses beaucoup plus importantes pour moi.
Ah, parce qu'ils ont
un petit coup d'affaire sur ça.
Ben voilà, les gens, c'est encore l'histoire de la Marichonne. Les Marichonnes nous ont enlevé le sens de ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Et ça, c'est l'homme, il se heurte beaucoup à ça. Oui, à Shavuot, par exemple. Combien de gens vont réfléchir à ce que je vous ai dit ce soir? Que c'est la clé de tous les dilemmes qu'on a. Les gens, ils vont penser, n'oublie pas le gâteau au fromage, n'oublie pas nanana. Et ils vont passer à côté du matin de Torah. Oui ou non? Donc, ça veut dire, encore une fois, la Marie-Jeanne nous a empêché de voir l'essentiel et l'accessoire. C'est pour ça qu'il faut éduquer les autres et s'éduquer soi-même à dire, attends, mais quel est l'essentiel, quel est l'accessoire? Dans tout. Vous avez compris?
Ça s'apprend
bien sûr avec la Torah. Je vous ai dit, il y avait une personne qui est venue ici, un monsieur d'un certain âge, qui m'a dit, mon fils, je n'ai pas envie qu'il vienne à Yeshiva, je dis, c'est pas pour toute la vie. Il va étudier, après il ira travailler, il ira faire ce que je... Il m'a dit, non, j'ai pas envie... Je voudrais qu'il aille tout de suite à la fac, qu'il devienne médecin. Hein. Puis, monsieur, vous n'êtes pas éternel. Un jour, vous serez bien content que votre fils dise un kadish pour vous. Steve. Ben ouais. Qu'est-ce que vous préférez? Que moi, je dise le kadish pour vous ou que vous, que lui le dise pour vous? Alors, je ne dis pas qu'il va sortir d'Yeshiva, il va devenir le grand rabbin d'Israël, mais au moins, il saura prier, étudier un peu. Et donc, quand vous allez... aller dans un monde meilleur, il pourra vous faire honneur même après votre mort. Donc ça vaut bien le coup que vous investissiez un an d'Yeshiva pour ça. Alors il m'a dit, vous êtes très négatif. Je dis non, je suis réaliste. C'est pas négatif. Donc ça veut dire quoi? Ce monsieur n'a pas réfléchi sur le coup qu'il y a l'essentiel et l'accessoire. C'est vrai qu'il faut avoir un métier, il faut vivre, tout à fait d'accord. Mais c'est peut-être essentiel d'abord de se remplir la neshama, de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Et donc, à chaque fois, il faut sans arrêt nous éduquer nous-mêmes à savoir, à tel moment, quel est l'essentiel des accessoires. Qu'est-ce qu'il faut voir maintenant, dans ce moment-là? Comme vous voyez dans les mariages. Vous voyez dans les mariages, c'est des fois frappant. Vous voyez, les mamans et les belles mamans, ils se disputent. Mais on t'a mis le bouquet, mais où les trucs, blablabla. Mais l'essentiel, peut-être, c'est de penser que vous êtes en train de consacrer quelque chose de fondamental, un mariage. Donc, mazé, méchané, qu'est-ce que ça peut faire que le bouquet n'était pas sous la photo au moment où vous avez pris la photo? C'est plus important, peut-être, que votre fille soit calme et votre gendre soit concentrée sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, à chaque instant dans la vie, on s'attache à l'accessoire et on laisse l'essentiel parce que Adam Arishon nous a encore enlevé le focus. Nous a enlevé le relief des choses. Et ça, c'est l'acceptation du matin de Torah qui va nous redonner tout ça. Nous redonner des bonnes lunettes pour voir juste le monde, des bonnes oreilles pour entendre ce qu'il faut entendre et la musique qui va derrière. Et tous les sens, les remettre à leur place. Et nous arrêtons là l'émission.